Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis sûre que vous étiez impatients de retrouver la deuxième partie de l'histoire d'Alex et Emmanuel. Eh bien, ils sont là, en chair et en os devant moi. Comment vous allez ?
Ah, super.
Du coup, dans cette deuxième partie, on va commencer par justement le moment où vous décidez de vous installer ensemble. Rapidement, pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas écouté la première partie, est-ce que vous voulez bien vous représenter ?
Je suis Emmanuelle, la femme d'Alexandre, j'ai 46 ans et voilà, on est là pour parler parentalité.
Ouais.
Et moi je suis Alex, donc j'ai 47 ans, je suis le mari d'Emmanuelle et voilà, on est ensemble depuis plus de 10 ans.
Super. Eh bien écoutez, la question que je voulais vous poser pour commencer, c'était à quel moment vous décidez du coup de vous installer ensemble ?
On habite chacun dans notre appartement. Moi, je suis dans le 13e, toi, tu es dans le Val-de-Marne.
Non, je suis dans le 91, ouais, vers le Buisson.
Voilà.
Cette période-là.
Et on s'est rencontrés en mars 2015 et septembre 2016, on décide de...
Ouais, je ne suis pas très fort sur les dates, mais oui, ça, doit être, ça arrive très rapidement.
Faire la féministe, moi, voilà. Ses propres garçons.
Bon ouais, en tout cas très rapidement quoi. Au bout de 6-7 mois, on se dit allez, ça sera plus simple, voilà. Et donc étant parisienne et voilà, on s'est dit on va trouver un compromis parce qu'Alex n'avait jamais habité à Paris et donc on se dit on va habiter à Porte de Saint-Cloud qui est dans le 16e et vers plus Boulogne tout ça. Et on trouve, pas évident de trouver un appart sur Paris, etc. Ouais. Mais bon, alors ce qui est drôle, c'est
Une fois, quand tu disais pas de hasard, c'est qu'on trouve un appartement. Moi, j'avais encore ma grand-mère qui habitait donc à la Porte Saint-Cloud et on trouve un appart dans sa rue.
Waouh.
Voilà.
Ok.
Et voilà, on a plusieurs pistes et c'est le seul truc qui se met bien, c'est celui-là.
Hop. Quand on arrive là-bas, moi, je sais direct que c'est notre appart. Enfin, j'aime bien ce côté fluide, en fait, dans les choses. Et quand on est arrivé là-bas, j'ai senti tout de suite qu'on vivrait là-bas. Je l'ai dit à Emmanuel, d'ailleurs, qui n'était pas convaincu au début par le...
Ouais, parce que moi, je suis très pragmatique. Il n'y avait pas de rangement. Alors, j'ai dit non, c'est vieux, il n'y a pas de rangement. Et lui, il dit non, c'est là.
Ouais. C'est un appart genre un peu à l'ancienne ?
Ouais.
L'immeuble était à l'ancienne, mais l'appart était refait à neuf.
Ok.
Vraiment, c'est vraiment la Porte de Saint-Cloud, quoi. Ça donne sur la Porte de Saint-Cloud. Moi, c'est un quartier où j'ai vécu toute mon enfance parce que mes grands-parents habitaient là-bas. Et donc, c'était effectivement, ça nous satisfaisait tous les deux puisqu'on était dans Paris, mais dans mon Paris.
Ça tombe bien en disant mon Paris FM ici.
Voilà, exactement. Et puis, la Porte Saint-Cloud, c'est quand même. C'est pas Paris centre, tu vois, c'est un côté respirant, on va dire.
Et c'est pas le 16e sans être le 16e, c'est
populaire.
Cool, quoi. C'est populaire, on n'est pas. Et il y a le Parc des Princes à côté, enfin tout allait, quoi, des deux côtés. Ouais. Moi j'étais dans Paris, lui il avait.
Son Parc des Princes était bon. Voilà. Du coup, vous installez dans cet appartement-là, parce que toi, à ce moment-là, au moment de la visite, tu te dis, on va vivre là, mais le propriétaire n'a pas encore dit son dernier mot.
Non, effectivement, mais je sens que ça va le faire. Alors, j'ai la chance qu'Emmanuel soit un monstre de constitution des dossiers.
Ouais, trop bien.
Donc, quand on visitait les apparts, on avait tout et on pouvait le remettre tout de suite. Tout. Ouais. Donc, ça joue vachement. Et ça a fait que le gars, à peine la visite finie, il avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Donc, ça a été assez rapide.
Ouais, nous a rappelé
on
le
a eu l'appart.
Ouais, c'est un peu gage de sérieux en plus. Ouais.
Exactement.
Ok. Donc, on s'installe dans ce nouvel appartement. Il est comment ? C'est un studio ? Il y a plusieurs pièces ? C'est comment ?
C'est un deux pièces.
Ouais,
deux
okay.
pièces, un peu qui fait un peu comme tu connais le Flatiron là à New York. C'est un immeuble qui fait un coin.
Ok.
Donc en fait, on a vu sur toute la place, donc c'est super sympa, c'est très lumineux. Et
c'est petit, un peu panoramique.
Ouais, un peu panoramique.
Ouais, c'est un, une ouais, maison
c'est
qui est un peu
en angle, quoi. C'est un appartement d'angle.
Comme un entonnoir, un peu. Comme
voilà.
Ça. Et du coup, quand vous vous installez dans cet appartement, vous dites quoi ? à ce moment-là. Est-ce que vous vous dites, ça y est, on y est, on commence un peu cette vraie, ou je ne sais pas si on peut dire vraie, parce qu'il y a des gens qui sont en couple et qui ne vivront jamais ensemble et qui sont très heureux, mais est-ce qu'on se dit, ça y est, on est parti pour une histoire, pour un chemin, ou est-ce qu'on se dit Emmanuel, ouais, on s'installe, mais bon, c'est pas trop.
Moi, honnêtement, je me dis rien du tout. C'est-à-dire que pour moi, c'est une continuité. En fait, j'ai pas la sensation d'entamer un truc, tu vois, hyper important. Enfin, c'est la continuité de ma vie. Je suis là où j'ai envie d'être au final. Donc, je présume pas de l'avenir. Enfin, tu vois, je me prends pas la tête. Ça se finit, ça se finit.
Juste,
enfin,
tu poses tes bagages, quoi.
Exactement.
Toi, Emmanuel, qui aime bien un peu avoir le contrôle sur les choses, est-ce que à ce moment-là,
alors moi, c'est la première fois que je vivais avec quelqu'un, déjà, quand même. À 37 ans, j'avais jamais vraiment vécu avec quelqu'un. Parce que voilà, mes couples, chacun vivait chez soi et ça m'allait. Et là, donc, faire cette démarche-là. Donc, quitter mon ancien appart que j'avais eu beaucoup de mal à obtenir, où j'ai passé quand même des super moments et tout. Bon, mais c'était petit, mais bon, c'était pas possible de vivre à deux dedans, donc voilà. Mais bon, ça se fait, c'est fluide. Alors, ce côté fluidité, moi aussi, j'y crois, mais disons qu'Alex, qui est cancer, moi, je crois vachement aussi à l'astrologie. Lui, c'est vraiment ça, c'est quand les choses s'alignent et se mettent bien. Et là, je suis vraiment à fond maintenant dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tu visites, voilà, ça se met mal, tout de suite tu rates le rendez-vous, le truc se met pas, tu dis bon, ça va mal se mettre. Là, c'est vrai que c'est... Chut, je l'ai même pas senti passer, en fait. À part, en effet, j'essaye d'avoir des résistances en disant, ah, c'est chiant, il n'y a pas de rangement et c'est vieux, mais en fait, on s'en fout.
C'est d'être un peu relou, quand même.
Ouais, j'essaie quand même d'être relou, parce que voilà. Mais non, en fait, il me dit, mais non, on ne trouvera jamais mieux. Tout allait, c'était cher, mais ça allait. L'agence, ouais, elle était juste en bas.
Il n'y avait pas de parking,
mais bon, on ne pouvait pas tout avoir, voilà. Bon, pour commencer, c'était bien, et on s'est dit, et en plus c'était Paris, enfin bon voilà, donc du coup, moi, tant que c'était Paris, il n'y avait pas de soucis, allez, on y va.
Donc ça y est, vous êtes installé, ouais. Comment vous posez les jalons de cette vie de couple, est-ce que ça se fait naturellement, est-ce que vous discutez quand même de certaines règles, ouais. Parce que c'est pas la même chose d'habiter avec quelqu'un et de côtoyer quelqu'un.
Ouais, tout à fait. Non, je crois qu'on n'a jamais... On se connaît bien, donc en fait, on sait... Moi, je suis un peu bordélique, mais pas... Enfin, pas vraiment bordélique, mais on va dire que je suis relâche, quoi. Emmanuel, elle est plus carrée sur le rangement, sur les choses organisées. Mais bon, au final, on n'a pas eu vraiment... moi, je sais ce qu'il faut pas faire pour que ce soit désagréable pour elle, ou ce qu'il faut faire, moi j'ai rien à faire, donc voilà.
non, mais franchement, non, c'est franchement une question aussi de caractère, de tempérament, de vision des choses, et puis de s'accepter. Moi, tant qu'on m'embête pas, ça va, et je pense que toi, c'est pareil, ouais. Chacun son espace, c'est notre espace. Moi, je me suis jamais sentie chez moi nulle part aussi, par l'histoire, et puis j'ai beaucoup bougé et tout. Là, bah voilà, au bout de 10 ans, je peux enfin dire, parce qu'entre temps, après, on a déménagé, on racontera après, mais je me sens bien, quoi.
Oui, c'est ça, moi aussi.
D'être bien au bon endroit avec la bonne personne, c'est vraiment ça.
Moi, que j'appréciais pas de ce que me disait Emmanuel à l'époque, c'était... quand on était dans cet appartement, j'essayais de lui faire dire qu'on y était bien. Et elle me dit, ah, mais moi, je m'en fous, je peux être bien partout. Et je me sens chez moi nulle part.
Et je disais, ce qui compte, c'est la compagnie.
Oui, ce qui compte, c'est avec qui je suis. Et ce que je disais, c'est que t'es OK, mais pour moi, c'est important de se sentir bien chez soi, quand même.
Elle me dit, bah, du coup, on va aller habiter à French. Je fais, non, c'est bon.
Finalement, je me sens très bien ici. Vous cheminez tous les deux. Est-ce que vous rencontrez des difficultés à cohabiter un peu plus tard dans le temps, ou est-ce que ça reste fluide? Est-ce que le vécu que vous avez pu avoir chacun de votre côté, finalement, ça se combine bien, ça se passe bien, ou est-ce qu'il y a quelques angoisses, quelque chose, des petites zones un peu sombres? C'est-à-dire que quand on a un parcours difficile, voire traumatique, eh ben, des fois, il suffit d'un petit détail qui me refait penser à quelque chose et qui me met... Comment vous vivez, du coup, cette installation avec, justement, ce bagage un peu...
En fait, je pense qu'on est tellement soulagés de s'être rencontrés que déjà, je pense que ça se passe bien. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la vie ne nous épargne pas trop parce qu'en fait, sa grand-mère décède alors qu'on habite dans la même région. Déjà, on a pu bien profiter quand même de sa grand-mère plusieurs fois. Elle décède et on se retrouve avec une histoire d'héritage
c'est ça.
À gérer. Mmh. Et là...
ça te replonge clairement dans la famille.
Voilà.
Oui, parce qu'en fait, moi, c'est un moment, c'est vrai que tu as raison de le souligner, qui est important parce que ma grand-mère décède et en fait, elle vivait avec son fils, donc le frère de ma mère. C'est plutôt lui qui vivait là-bas. Et donc, la grand-mère décède, et donc on hérite de l'appartement, donc dans le 16e arrondissement, hein, tu vois, un beau truc quand même, avec mon parrain
dedans.
Donc comme ma mère est morte, c'est moi qui hérite de sa part. Et au début, je vais la faire rapide, mais il ne veut pas bouger. Ça a été très très compliqué, ça a pris 2 ans avant que je puisse le convaincre de vendre, qu'on réussisse à le virer de l'appart, qu'on réussisse à rendre l'appart à peu près... Tu vois, il y avait des mégots de clopes par terre et tout. Enfin, c'était un truc. On a bossé, mais comme des chiens, là-dedans, pour le rendre visitable, tu vois. C'est moi qui faisais visiter. Enfin, je me suis investi comme un fou là-dedans pour pas que, déjà, ça allait partir en hypothèque à un moment.
On a eu des dettes.
Donc au final, ça s'est réglé. Mais moi, je crois que ça a fini de m'épuiser.
Ouais.
Du coup, j'ai quitté mon taf à cette période-là, à peu près.
Tu bossais où à l'époque ?
Je bossais dans un organisme de formation national dans le BTP. Depuis 8 ans, je bossais dans la com. Il y a eu un déclenchement. Voilà, je suis parti, j'ai quitté le boulot et donc il a fallu gérer ça. Donc, Emmanuel m'a soutenu parce que c'était pas elle de s'occuper de ça. Donc, moi, je me suis occupé de ça de A à Z. Mais ça te renvoie aussi à ta mère. Enfin, on reprend le couteau et on remet un coup dans la plaie.
Là, tu peux plus faire genre, tu ressens rien, quoi.
C'est clair. Donc là, mais il faut gérer. Et en fait, si je me remets un peu dans ce truc-là, c'est-à-dire. Tant que la partie n'est pas vendue, que le problème il n'est pas réglé, j'ai pas le droit de me relâcher, pas le droit de, tu vois, donc je me mets une dose supplémentaire de,
Donc, compliqué.
Du coup, on pense pas trop à nous, on pense plus à gérer le truc, et ça nous unit encore plus que dans l'adversité, moi je me rappelle un jour, faut rendre l'appart, son parrain était censé avoir tout nettoyé, il l'a pas fait, je quitte le taf, je vais chez Lidl, j'achète tous les produits ménagers et on commence à nettoyer la baraque, enfin, on a fait des trucs de fou quand on y repense, mais c'est aussi l'élan d'être ensemble, t'inquiète, on va y arriver, on va gérer.
Puis de savoir que tu peux compter l'un sur l'autre, sans fort. Poser de questions,
Et dans un moment important quand même, parce que un peu plus tôt, dans la première partie, tu disais quand des fois tu es face au deuil et que c'est pas à toi de prendre la responsabilité, mais qu'on te la donne, là, en fait, tu l'as bien verbalisé, Alex, tu as dit, c'était pas à elle de porter ça, elle m'a soutenue, mais j'ai porté quand même le truc. Et je pense que ça aussi, peut-être que ça sécurise un peu, ça rassure et... et comme vous avez dit, ça unit.
Ouais.
Du coup, après cette étape-là, vous restez encore sur Porte de Saint-Cloud. Là, est-ce que vous commencez à vous projeter dans une éventuelle parentalité ou pas ?
Ouais, alors on part, on reste 1 an et demi, Porte de Saint-Cloud. À cause notamment du manque de parking, ça commence à devenir quand même cher pour ce qu'on a. Voilà. Cave dégueulasse.
On avait plein de problèmes.
On avait plein de problèmes de fuite. Ouais. C'était vieillissant, donc on allait avoir d'autres emmerdements. Mmh. Donc on décide de partir, et là, la banlieue, quoi, se propose. Et donc moi, je propose à Emmanuel de retourner dans mon coin. Pas Fresne parce que elle voulait pas, mais Bourg-la-Reine du coup parce que c'est sur la ligne du RER et que c'est bien placé et puis que voilà, et donc on déménage à Bourg-la-Reine.
J'ai pleuré, j'avoue.
Ça a dû être insupportable de passer de Porte de Saint-Cloud à Bourg-la-Reine, c'est quand même pas la même chose. Bon, après Bourg-la-Reine, ça va, c'est sympa quand même.
Ouais, ça va.
Franchement, ça va. Il y a vraiment pire. Et oui, on n'est pas axé. Et donc là, on est complètement...
On quitte le 16e, on ne sait pas que c'est dans le 16e, et on part à Bourg-la-Reine. Alors, il faut dire aussi que pourquoi aussi on a quitté Paris, c'est que étant de banlieue, entre guillemets, il avait besoin son sas de décompression. Et ça, je l'ai découvert. Quand t'es à Paris, tu te rends pas compte. T'es dans la machine à laver, t'es dans le rythme et tout. Et c'est vrai que souvent, le soir, il rentrait, il me disait, mais en fait, je respire pas. Je rentre, je suis là, on coupe jamais. Mm. Et alors, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit, en fait? Et en fait, en arrivant à Bourg-la-Reine, et ça, j'ai cette sensation tous les soirs en rentrant chez nous, c'est qu'en fait, t'as ce côté air frais, rien que de l'air frais, et puis t'as de la verdure, c'est autre chose, quoi.
C'est un autre délire.
Voilà, un autre délire. Et donc, du coup, on choisit Bourg-la-Reine parce que c'est pas loin, et puis que, voilà, c'est... Et du coup, on a plus grand, on a deux parkings, on paye 500 balles de moins, enfin voilà, quoi. Donc,
c'est pas du tout la même vie, en fait. Oui.
Et on a deux chambres, donc une chambre possible. Dit, voilà.
Vous choisissez volontairement deux chambres à ce moment-là?
Non.
Non,
non. On cherchait deux, trois pièces. Mais voilà, on tombe sur ça, pareil, hyper fluide. On avait le choix entre deux possibilités. Et en même temps, même pas, on allait visiter un appart. Elle me dit, ah, j'ai peut-être autre chose pour vous. Et elle nous emmène de nuit dans cet appartement où, en fait, on voit, pareil, nickel, tout s'enchaîne bien, pas cher. Mmh. Alors moi, je fais ma relou quand même, il y avait de la moquette. Je dis, non.
Après les rangements, la moquette.
Alors qu'on est à 10 minutes du RER, qu'on a un balcon, parfait. On est dans un jardin, on n'a pas de vis-à-vis.
Mais la moquette.
La moquette.
Donc je dis ça et après on le prend. Et pareil, tout s'enchaîne bien et tout. Donc on se retrouve à Bourg-la-Reine, dans la campagne. Il venait de quitter aussi son travail, tu venais de quitter ton travail. Donc c'était pas la grande pêche non plus. Donc le fait de changer aussi, ça, c'était important parce que je pense qu'il fallait vraiment couper. Pour recommencer autre chose, quoi.
Vous avez enlevé la moquette depuis ?
Non.
Dans l'entrée, simplement.
Finalement. comme quoi, on s'accommode de plein de choses.
Absolument.
Du coup, à ce moment-là, voilà, vous êtes dans votre nouvel appartement, nouvelle ville, deux chambres. Commence à se poser la question d'avoir un enfant ou pas encore?
Ah oui.
Ouais, bah en fait, moi j'avais 37 ans, hein, quand on s'est... Toi, t'en avais 38. Moi, même Nico me dit, il va falloir se bouger un peu, là, allez-y. Et bon, alors, j'ai quand même attendu un peu, voilà, je prenais la pilule depuis l'âge de 16 ans, donc j'arrête. Donc, il faut que tout se remette en route. Et vers 39 ans, on s'est laissé un an et demi, le temps de gérer tous nos trucs là pour commencer. Et au bout de 6 mois, il ne se passe rien. Donc, Gynéco me dit, peut-être falloir passer à la PMA parce que vous avez bientôt 40 ans et que ça peut être une solution si ça ne vient pas.
Est-ce que tu nous expliques la PMA pour ceux qui ne savent pas?
Alors, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée qui est en fait le fait d'être accompagné dans la conception d'un enfant. Donc, il y a plusieurs dispositif, il y a soit des inséminations artificielles, soit des fécondations in vitro. Et donc là, il faut rentrer dans un protocole. On l'a fait. Et ça dure longtemps, c'est long, c'est très dur, c'est compliqué. Donc ça peut être aussi. Et en plus, c'est pas garanti que ça fonctionne.
C'est coûteux.
Alors, c'est
très coûteux, mais c'est remboursé
par la sécurité
sociale. Jusqu'à un certain âge.
Jusqu'à 43 ans, c'est en effet pris en charge par
la sécurité sociale. Et après 43 ans, on prend plus en charge.
Après 43 ans, c'est fini.
Ouais. Donc, ça devient coûteux avec le temps.
Voilà, exactement. Mais après 43 ans, se pose la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Sachant qu'en effet, on ne se rend pas compte, mais c'est des milliers d'euros, parce qu'il y a des ponctions, c'est très très lourd, c'est des opérations. Enfin, on fait des ponctions sous anesthésie générale, par exemple, j'en ai fait 3.
C'est pas anodin, l'angoisse, quoi. L'angoisse de l'opération, l'anesthésie.
Et on reste à l'hôpital. Tout ça est très éprouvant. On prend des hormones. J'ai pris beaucoup d'hormones, alors que mon corps ne supportait pas les hormones, mais on m'en a fait prendre. J'ai dû me faire opérer parce que du coup, ça m'a fait déclencher des choses.
Ça, c'est, tu le signales de façon un peu anecdotique, mais je pense que c'est important de le souligner. C'est qu'effectivement, au début, suite d'examens passés avec les gynécos et tout ça, il s'avère que tu as des problèmes au-delà de pouvoir avoir un enfant ou pas.
J'avais un genre de
kyste.
De kyste, quoi.
Au niveau des ovaires.
Un fibrome. En fait, on peut détailler un peu le processus.
Oui,
en fait, donc, mon gynéco me dit, ma collègue à côté a fait des fives, donc allez la voir. Donc, je prends rendez-vous. Alors, c'était déjà en 2018. Aujourd'hui, ça s'est ouvert à plus de femmes. Et d'ailleurs, Et déjà, c'était compliqué à l'époque parce qu'il y avait là beaucoup de monde. Et donc, il faut s'y prendre tôt quand, si on veut vraiment se lancer là-dessus, parce que ça peut prendre beaucoup de temps avant d'être pris en charge. Donc, du coup, on va voir cette dame qui était très gentille, au demeurant. Mais elle avait tellement de boulot que des fois, elle ne savait plus trop mon dossier, etc. Donc, je ne me sentais pas hyper en sécurité ni en confiance, en fait. Et donc, elle me prescrivait, mais un peu automatiquement, voilà.
T'as l'impression qu'elle ne te connaissait pas,
en
fait.
Non, pas du tout. À tel point qu'une fois, je la vois après un échec de FIV, donc je ne suis pas au top de ma forme. Et elle me dit, ah bon, alors comment ça va ? Ça s'est bien passé ? Bah non, en fait.
Ah ouais, ouais.
Et là, je vois à quel point je suis un numéro, ouais. Que derrière sa façade de super sympa, bah, en fait, elle ne sait pas. Et surtout, elle a des listes d'hormones qu'elle attribue. Et tu vois, voilà. Ah bah ça n'a pas marché, bah, vous allez faire ça. Ouais. Et les hormones, c'est quand même des piqûres qu'on s'injecte dans le ventre. Tous les soirs pendant 15 jours, 3 semaines. Enfin, c'est un truc de malade.
Et qui modifie le corps.
Ça m'a fait prendre du poids, ça m'a fait pousser des polypes, par exemple. J'ai dû me faire opérer après, un peu plus tard. Donc, c'est pas anodin. Et surtout, ben, l'accompagnement. J'ai été d'abord traitée dans un hôpital public. Donc, avec ce médecin de ville, c'est être disponible aussi, parce que j'ai un travail, sur des horaires où il a fallu que je me libère en pleine journée, mais je voulais pas en parler à mon employeur, donc faire des allers-retours en courant le midi pour aller faire des échographies, des prises de sang, voir à chaque fois qu'on prend des hormones, il faut faire des prises de sang pour voir les taux d'hormones, voir si ça évolue bien, ça a évolué plus ou moins bien. Bon, bref, donc c'était un peu compliqué. Donc, commencer par des
inséminations,
voilà,
ouais.
Qui ont pas fonctionné, donc une fois, deux fois, trois fois, donc chaque mois on a vraiment
l'espoir
que ça fonctionne, et puis bon, ça marche pas, et puis très vite elle me dit bon bah faut passer à la FIV, et puis quand même mon fibrome, j'avais un fibrome qui était, alors je l'ai su plus tard, elle était pile sur le puits de fertilité, c'est comme ça que ça s'appelle, et elle me dit non, c'est rien, c'est décoratif, vous embêtez pas, ça ne risque rien et ça n'empêchera pas une grossesse. Ok, donc on fait une première FIV, voilà. Bon, bah, c'est l'hôpital public, il y a du monde. Je fais une ponction, anesthésie générale. Donc, les anesthésies générales, c'est jamais trop bon pour le corps. Hein, donc, je mets du mal à m'en remettre. Ensuite, on fait la fécondation. Donc, tout se passe bien. Beaux embryons, magnifique. Donc, on est appelé. Vous, c'est bon, vous avez des beaux embryons. Venez, présentez-vous 3 jours après. Donc, vas-y, arrange-toi au boulot pour ne pas avoir de réunion, rien. Voilà, prendre une journée, éventuellement une après-midi. Et alors, vous arrivez à l'hôpital, puis ça peut durer très longtemps parce qu'il y a toujours des urgences, etc. Bon, finalement, ils font le dépôt de l'embryon dans l'utérus. Et après, pendant 15 jours, il faut attendre. Donc là, c'est là que ça, il faut pas y penser, mais c'est difficile.
Bah ouais, on pense qu'à ça.
On attend, voilà, on est en priant de pas avoir donc son cycle qui se déclenche. Et puis finalement, le cycle se déclenche, et là, il faut recommencer. Et ça, et voilà. Et donc moi, étant un peu carré, qui maîtrise tout, je rentre un peu en processus machine et me dire maintenant on va y arriver, parce que voilà, je veux y arriver, etc. Sauf que derrière, ça demande à la fois, en tant que femme, de me faire examiner toutes les 5 minutes, ouais. Faire des piqûres, de faire des échographies, de maltraiter mon corps, parce qu'en fait très vite je vois que les hormones, plus j'en prends, mon cycle réagit pas plus. Que si j'en prenais pas. Donc, à un moment donné, j'ai déjà envie de dire, mais je suis obligée d'en prendre, en fait. Il y a peut-être d'autres situations. Alors, on me dit, là, on a fait un truc un peu express, on va le faire plus long. J'ai la sensation d'être un cobaye.
Ouais, un cobaye.
Vraiment, parce que, ils testent des trucs. Mmh. Et puis, à chaque fois, c'est jamais la même chose. Et alors, le pire aussi pour Alex, c'est qu'il doit faire des prélèvements.
Enfin,
pour moi, c'est pire.
C'est Emmanuel qui le vit, clairement. Après, moi, c'est plus anecdotique. Mais c'est vrai que ça rentre dans une vision qu'on pourra aborder plus globale de ce parcours de procréation médicalement assistée. C'est que t'en perds, au final, ce pourquoi, pourquoi tu fais ça, quoi. Mmh. C'est-à-dire que quand tu vas dans une salle, qu'on t'appelle, que tu te lèves avec 5 mecs et qu'on te met chacun dans une chambre pour être masturbé dedans, t'es assis sur un siège, j'étais moins confortable qu'ici. C'est compliqué.
Avec des bruits derrière.
Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'a vécu Emmanuel, parce que c'est pas une souffrance physique, c'est juste un moment désagréable. Ouais. Et puis, oui, tu te dis, mais pourquoi je fais ça ? Enfin, c'est. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est...
tu te remets un peu en question finalement, ça perd aussi un peu de la beauté, du sens.
Complètement. Ça perd complètement du sens parce qu'en plus, ça s'ajoute à le fait de voir ma femme souffrir, de s'infliger pas mal de choses. Et je sais pas si tu voulais parler après de la praticienne suivante.
Oui,
mais...
parce que du coup, je vois que ça marche pas avec celle-là. Et puis de toute façon, j'étais pas très en confiance. Donc je change. Et je trouve donc la ponte de la PMA, de la procréation médicalement assistée sur Paris, donc dans le 16e. Et donc c'est une personne qui réussit. réussi, parce qu'en plus, il y a des taux. C'est un business, en fait. On va en parler aussi, mais c'est un business de malade. Et cette femme-là est très désagréable et irrespectueuse, en fait. Elle a tellement de monde à voir.
Elle, par contre, ça fonctionne, mais par contre, elle est horrible.
Mais immonde. C'est-à-dire qu'en fait, elle me manquait de respect, en fait.
La première fois, on va dans son bureau. Donc, elle dit à Emmanuel d'aller se déshabiller à côté. Et puis, elle lui parle. Mais doucement, donc Emmanuel n'entend pas, donc elle lui dit, je sais plus ce qu'elle te dit.
Ouais, elle me dit, je sais pas, vous avez pris vos piqûres, alors moi j'entends pas, je dis pardon. Puis elle hurle,
Si vous avez pris vos piqûres. Emmanuel est obligé de venir nu dans le bureau et tout, je dis non.
C'est un manque de respect.
Je dis, vous parlez pas à ma femme comme ça.
Donc du coup, il s'embrouille avec la gynéco.
Au premier truc.
Et je me dis, mais non, et moi, dans mon truc, il faut que ça marche, il faut que ça marche.
Et c'est elle.
Non,
elle la défendait, du coup.
Je la défendais en disant, non, attends, elle a mes ovaires entre ses mains. Il faut pas qu'on s'embrouille. Ouais, sois gentil, on s'en fout, on verra après. Tu lui casseras la gueule après. Donc, je plaisante, mais en tout cas, non, il aura pas fait ça. Mais tu t'arrangeras avec elle après. Mais pour l'instant, tu fais rien. Là, je suis le ventre plein de piqûres et tout. Il faut qu'on aille au bout, quoi. Parce que si on la contrarie et que deux jours après, elle me fait pas mal, ou elle me fait mal, ou elle me bâcle, parce qu'on sait pas en plus ce qu'ils font. C'est des gestes médicaux.
Mais tu vois la posture déjà. Si on la contrarie, alors que c'est quand même nous les clients, au final, si on revient basiquement à une relation commerciale, c'est nous qui payons cette femme pour qu'elle fasse quelque chose pour nous.
Mais du coup, c'est super intéressant ce que tu soulèves, parce que est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de... On est tellement prêt à tout là à ce moment-là, même l'inacceptable, ce que Alex n'accepte pas sur l'instant, mais que toi t'essaies de lui faire accepter en disant mais pour deux choses, hein, parce que l'envie de concrétiser, mais aussi la peur. Ouais. Tu l'as très bien verbalisé, la peur, et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui doivent se retrouver là-dedans. Des fois t'es passé à un médecin et tu dis si je l'énerve, qu'est-ce qu'il peut me faire en fait?
Ça c'est super important ce que tu dis, parce que effectivement nous quand même on avait, malgré qu'Emmanuel voulait garder ce médecin, parce qu'elle voulait qu'on tente avec elle au vu des résultats qu'elle avait eus. Mais nous, on était dans la posture de dire on n'est pas prêt à tout.
Ouais.
C'est-à-dire on garde quand même une conscience, et on était conscient de part des gens qu'on a pu pas côtoyer, mais croiser sur le parcours, qu'il y a des gens, leur vie en dépend. C'est-à-dire que pour eux, s'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, leur vie, elle s'arrête. Donc, ils sont prêts à aller hyper loin, quoi, financièrement, même d'accepter des comportements ou de maltraitance. Ils sont prêts à aller très loin. Je voulais pas que ce soit comme ça. Je pense qu'Emmanuel aussi.
Oui, à la fin. Alors moi, j'y voyais mon intérêt. C'est sûr qu'à la fin, voilà. Mais bon, globalement, c'est vrai qu'on a croisé des gens sur le parcours qui, on voyait des gens mais désespérés. Et alors, il y a ce contraste entre ce désespoir et ce business derrière. C'est un business. On peut même pas imaginer. Parce que nous, on a ce recul là et on est assez froid finalement. Bon, ça marche pas. On n'est pas dupe. Et de voir ça avec ce recul-là, et ce que je pense que les gens ne voient pas forcément, c'est que le laboratoire, le médecin t'envoie dans ce laboratoire parce que derrière, il y a le business à faire.
Ah, il fait croquer ses potes.
Il fait croquer ses potes. Les protocoles, pourquoi tu ne me fais pas faire une FIV directe? Ben non, parce qu'il faut faire d'abord 3 inséminations, ça coûte tant. Et ensuite, on fait la FIV. Et après, on teste, on voit.
Et puis avant, tiens, vous allez aller faire un examen de ça, chez mon pote machin. Ouais. Alors quand tu rentres dans les bureaux de ces gens-là, ils ont des photos de bébés partout. C'est un peu les trophées qu'ils ont, tu vois. C'est un peu, pour moi, la manipulation psychologique. Toi, les gens en détresse arrivent dans son bureau.
Et tu dis, quand on voit tous les bébés,
ils ont réussi. Une espèce de conditionnement qui te fait accepter des trucs où tu te dis, mais au final...
Et est-ce qu'il y a un peu de culpabilité aussi qui peut se développer? C'est-à-dire que toi, tu arrives avec une démarche, tu sais même pas si ça va marcher ou pas. Tu vois plein de photos de bébés un peu partout exhibées comme des réussites, mais des réussites du médecin, mais des réussites d'autres couples ou femmes. Ouais. Parce qu'il y a aussi, ou hommes d'ailleurs, solo, d'autres parents en tout cas qui ont essayé. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis pourquoi moi j'y arrive pas en fait, si cette nana c'est la pointe Est-ce qu'il y a quelque chose qui joue de l'ordre de cette culpabilité?
En fait, c'est ça qui est le pire dans tout ça. Bon, il y a tout ce parcours, etc. Il y a deux choses qui sont terribles. C'est qu'il n'y a pas d'explication. Parce qu'en France, en fait, pour des raisons éthiques, on ne fait pas, par exemple, de biopsie, de l'endomètre ou de l'embryon. C'est-à-dire qu'en fait, si on nous avait fait notre embryon, ils vont extraire un petit bout d'ADN et puis ils vont voir, ils vont nous dire, ah bah non, en fait, l'embryon, il ne peut pas
Il n'est pas viable.
Parce qu'il n'est pas viable, ou ça va faire, ça ne marchera pas. Ou vous ne pourrez pas avoir d'enfant pour telle raison. En Espagne, par exemple, ils peuvent le faire. Ça. Du coup, ça, hop, on a la réponse, ce n'est pas possible, on passe à autre chose. Là, on vous garde dans cet espoir, finalement, de se dire, bah, ça peut peut-être marcher. Alors certes, l'espoir fait vivre, mais aussi, elle peut faire des
dingueries. C'est quand même un des rares business où tu payes, mais derrière, on n'est pas obligé de te donner payer, tu vois. Ouais. Et on ne te donne pas d'explication.
Il n'y a pas d'obligation de résultat. Quoi.
Et tu n'as surtout pas d'explication. C'est-à-dire, quand je me rappelle, ma dernière FIV, ça n'a pas marché. Et pourtant, ils m'en ont mis 3 embryons. Et avec tout le cérémonial de dire, est-ce que vous êtes prête à avoir des triplés? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous allez... Tu mets de l'espoir.
Ça, c'est chaud.
On nous a mis... C'était les plus beaux embryons de la Terre, machin. Alors certes, ce n'est pas parce qu'un embryon est bon qu'il est beau. Ça, on l'avait bien compris. Mais tout le cérémonial faisait que il fallait y croire et que ça allait marcher. Ça marche pas et du jour au lendemain tu n'as plus aucune nouvelle de personne. Tu n'as aucun suivi psychologique.
On t'appelle pas. Il n'y a pas de suivi.
Il y a pas. Oui, voilà, exactement. Un accompagnement psychologique qui après l'échec de la.
Même avant, ni avant, ni pendant, ni après.
Et après tu n'as plus de nouvelles de personne. C'est-à-dire tu es là avec ton échec. Et démerde-toi. Voilà.
Alors si, t'as la nouvelle du labo qui t'envoie la facture. Ou alors, pire encore, pour ces stats, qui t'envoie est-ce que ça a marché, pas marché. Ils se doutent bien que si ça avait marché, on aurait signalé. On a reçu encore 2 ans après des relances en disant, au fait, vous nous avez pas répondu si ça avait marché, pas marché. C'est le seul truc.
Ouais.
Et ça, tu le prends. Moi, la dernière FIV qu'on a faite, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Ça s'est arrêté brutalement. Et puis, on s'est dit qu'on arrêtait parce que...
C'est violent, en fait.
Santé mentale, santé physique, voilà.
Et puis après aussi, la sexualité du couple complètement impactée par ça. Parce qu'au début, tu te fixes des jours où il faut avoir des rapports sexuels, mais limite des heures. Donc, on sait très bien que la sexualité, ça marche pas comme ça. T'es bloqué. Ça t'enlève l'envie. C'est genre de la sexualité utile. C'est-à-dire, c'est pas pour le plaisir d'en avoir envie, c'est parce qu'on se dit, c'est le moment.
C'est comme si on sortait, on abandonne sa vie de couple. Son intimité
tout à fait.
Et on passe en mode robot, un peu comme tu disais, Emmanuel, en mode reproduction, quoi. Donc finalement, c'est moins agréable.
Moi, je le vivais pas bien, donc j'avais tendance à pas rentrer dans ce jeu-là, mais Emmanuel, elle, et je comprends, elle voulait pas faire tout ça pour rien. Elle voulait que si on devait le faire à 18h52, à 18h52, fallait le faire. Ça complexifie un peu le processus.
Ça peut faire exploser des couples. Je vois, nous, encore, ça va parce qu'on est très soudés et qu'on se parle, etc. Mais c'est vrai qu'il y a la frustration. Nous, avec nos hormones, on arrive à dire, allez, viens, on t'aime. Et à ce moment-là, il est enrhumé, il est malade et tout, il peut pas, ou parce qu'on a un truc de boulot.
Moi, j'avoue que principalement.
Parce qu'il a pas envie.
Oui, de dire. Rien qu'il faut le faire maintenant, ça me coupe. Ça sera pas naturel, ça sera pas du plaisir, quoi. Donc c'est vrai que ça coupe.
On n'est plus du tout dans le plaisir, en fait. Et ça, c'est terrible.
Et puis après, sur l'autre aussi, parce qu'après, on a refait des tentatives d'insémination. La nana est en train de faire l'insémination et elle te parle déjà de la prochaine. En disant, faudra qu'on prenne un rendez-vous pour la prochaine.
Comme si d'office,
ça allait échouer.
De toute façon, ça marche pas, il en faut 3.
T'es confronté à ce truc-là tout le temps, donc tu perds vraiment complètement de vue qu'au final, c'est le fruit de l'amour, un enfant que tu veux, et tu rentres dans une espèce de mission, et tu sais plus pourquoi tu le fais.
Et puis en plus, vous l'avez dit à demi-mot, c'est tellement entamé. À quel moment on se dit on arrête, à quel moment on se dit... Et je pense que c'est pas vraiment à nous de se dire on arrête, c'est plutôt professionnel pour le coup, parce que c'est censé être son métier aussi de dire...
Là, c'est la sécu qui te dit on arrête. Hein.
Ouais.
on arrête de payer.
Le professionnel, à un moment donné, il devrait quand même arrêter les gens en disant écoutez, au vu du nombre d'examens qu'on a fait, au vu du nombre de... Voilà, la vraie question que vous devez vous poser maintenant, c'est le jeu en vaut-il la chandelle ? Peu importe comment ils le formulent, et laissez les gens choisir. Il y en a qui feront le choix de continuer jusqu'à, et c'est leur façon d'accepter la vie, c'est je continue jusqu'à ce qu'on ne puisse pas me dire que je n'ai pas essayé, et tant pis, mais je suis dans ce processus, mais du coup, je ne suis plus dans la vie. Je cours après.
En fait, c'est pire que ça, c'est que non seulement ils ne te disent pas d'arrêter, parce qu'une fois que tu es dans la machine, c'est que tu as toujours une solution. C'est que si tu ne peux pas le faire toi-même, Et déjà, c'est pour ça aussi que j'ai quitté la première, le premier médecin, c'est qu'en fait, elle me dit, bon, bah, il va falloir qu'on pense au don d'ovocytes et peut-être même de, que vous alliez faire genre mère porteuse. Mmh. Ou, voilà. Genre, il y a toujours une solution. Sauf que les dons, ou, etc., c'est 6 000 ou 7 000 euros. Bah, ouais. Maintenant, ça doit être encore plus cher qu'en 2018. Et après, bah, tu as encore d'autres trucs où bah, tu peux faire porter ton enfant. Enfin, bon, là, c'est plus aux États-Unis mmh. ailleurs, mais tu as des ouais. forfaits, quoi. Enfin, tu as des genre.
Jusqu'où vous êtes voilà, prêt à aller, voilà. enfin, jusqu'où ton portefeuille peut
voilà,
aller.
C'est ça. Et c'est même plus une question de santé ou quoi. C'est qu'en fait, quand, c'est ce que disait Alex, normalement, à 43 ans, c'est fini. Et en plus, moi, c'est tombé, ma 43e année, c'était pendant le Covid. Donc, j'ai perdu un an et demi à attendre que ça reparte et tout, avec mon horloge biologique de femme, en me disant, ah, ça y est, c'est foutu. Alors, donc, en mettant, on va essayer naturellement, mais ça marche pas. Enfin, bon, bref. Et ça s'arrête brutalement comme ça. Je laisse passer un an et au bout d'un an, je suis frustrée. Je me dis non, mais on peut pas s'arrêter comme ça. Et donc, j'essaye de trouver via Instagram. Il y a tout un tas d'influenceuses maintenant qui sont spécialisées sur justement la PMA ou voilà l'accompagnement des femmes qui sont dans ces parcours. Et j'en contacte une et je lui dis, est-ce que vous connaissez un médecin, un gynéco qui pourrait prendre des patientes de plus de 43 ans? Et en effet, elle me conseille de trois médecins sur Paris. Donc, je sais pas où aller. Je me suis dit, je vais me faire jeter. Enfin, déjà, j'étais tellement traumatisée par le fait d'avoir été maltraitée ou mal. En tout cas, mal considérée ou mal respectée, en fait, finalement. Donc, je contacte cette nana qui est d'origine italienne, donc hyper cool, hyper chantante. Et c'est là qu'on repart sur une série d'inséminations. On ne refait pas de FIV, mais je décide de refaire quelques inséminations pour vraiment la dernière chance et en croisant les dents que ça fonctionne. Et donc, les premières, ça se bon, elle les fait. C'est là, en effet, au bout de la troisième, qu'elle me dit « Bon, bah, pour la prochaine, on prendra des hormones. » Et là, c'est là qu'Alex me dit « Mais tu te rends compte ? Elle te dit déjà ça alors qu'on n'a même pas réussi. »
C'est-à-dire
et...
qu'elle-même, elle n'y croit pas.
Mais non. Elle sous ses airs de... Voilà. Et alors, donc, là, je payais parce que, du coup, j'étais plus pris en charge. Et là, j'ai senti la différence. Et je ne voulais absolument pas réimposer à mon corps de reprendre des hormones. Donc, on a arrêté. Mais... un peu par fatalité, de se dire, voilà, et maintenant, et quand on en reparle maintenant, on se dit, est-ce qu'on a bien fait d'y aller ou pas bien fait, honnêtement.
Moi, je pense qu'on a... Alors, je me perds, il y a l'aspect de ce que ton corps a subi, et ça, on ne peut pas dire bien ou mal, mais dans l'absolu, si on ne l'avait pas fait, on l'aurait regretté, parce qu'on se serait dit, bon, il y a une possibilité qu'on n'a pas tenté, qu'on n'a pas exploré, donc, sur le fait du deuil d'avoir un enfant... Ça peut jouer. Maintenant, effectivement, ça m'a outré ce business-là. Et enfin, c'est pour ça aussi que ça me fait plaisir d'en parler et que d'autres gens puissent entendre. Parce que je trouve que les gens, comme je le disais tout à l'heure, qui font appel à ça, sont tellement dans une forme de détresse qu'ils sont prêts à accepter des choses qui sont quand même... qui sont très discutables, je pense. Et la posture des médecins, le manque d'accompagnement psychologique, je veux dire, si les gens sont pas équilibrés, ça peut ruiner des couples, ça peut ruiner des vies, même individuelles. Hein,
c'est comme si le cheminement, il était, quand je vous entends, je me dis, c'est comme si la personne qui a pensé à tout ce système, elle a pas abouti son projet. C'est comment on accompagne une femme et un homme, peu importe, femme, homme, peu importe, comment on accompagne quelqu'un qui a ce souhait d'être parent dans une démarche, mais toute la démarche. C'est-à-dire le pourquoi, on en parlait dans la première partie, ton histoire, ton vécu, etc. Et puis ensuite, l'accompagnement avant, pendant, après quand ça marche pas, mais après quand ça marche aussi, parce qu'il peut y avoir des choses qui jouent. Donc merci à vous deux d'accepter de témoigner. On sait que c'est un sujet...
C'est important aussi ce que tu dis sur le fait qu'ils n'analysent que la partie purement médicale. Physique, médicale. Après, je pense que dans la conception d'un enfant, il y a des enjeux psychologiques aussi qui jouent. Mmh. Et donc, nous, peut-être, si on n'a pas réussi, ça découle de ce qu'on a vécu avant, tu vois. Il y a peut-être ça aussi... Et si un professionnel encadre la chose et prend en plus de tous les examens, les IRM et tout ça, l'aspect psychologique du couple et des deux individus, il peut peut-être avoir, je sais pas, les mots ou le déblocage qui peut faire que ça marche. En tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte.
En tout cas, on dit que le corps et l'esprit sont liés. On y croit, on n'y croit pas, peu importe. Finalement, en tout cas, le blocage de la tête, il y a plein de couples qui arrivent à avoir un enfant quand ils vont en vacances, par exemple, ils sont loin de leur quotidien, ils sont loin de chez eux, etc. Enfin, il y a des gens à qui on a dit vous n'aurez pas d'enfants et qui ont tout arrêté, qui ont eu des enfants de façon naturelle.
Oui, tout à fait. Enfin,
où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça maintenant peut-être avant cette question-là, comment est-ce qu'on se projette? Est-ce qu'à chaque fois on se projette dans l'échec ou la réussite de la FIV ou de l'insémination et dans sa parentalité future? Est-ce que du coup ça vous fait parler? Est-ce que vous discutez de si cet enfant arrive, comment on va l'éduquer, quel amour on va lui donner, etc. Ou est-ce qu'on n'ose pas se projeter?
Alors, on n'a pas forcément la même vision des choses. Moi, je suis très dans la loi de l'attraction, quoi. Je me dis, quand on pense, on déclenche quelque part. Donc, j'avais tendance à beaucoup me projeter, à imaginer, à me dire, je suis enceinte. D'ailleurs, on est enceinte, en fait. Après, ça s'accroche pas. Essayer beaucoup de le croire pour que ça arrive, etc. Il faut quand même aussi, parce que maintenant avec le recul, on se rend compte, moi j'étais en pleine évolution professionnelle au moment où je faisais tout ça, j'avais une progression de malade, je suis passée directrice, ça m'a pris beaucoup d'énergie aussi, et j'étais peut-être pas forcément au meilleur moment de ma vie pour faire des FIV, etc. à ce moment-là, et il y avait aussi l'état de santé un peu psychologique, du deuil, etc. qu'il fallait faire en même temps, donc faire un enfant en ces conditions, avec le recul, c'est vrai que c'était... mauvais timing, quoi. Bon, après, ça veut rien dire, hein. Des fois, c'est l'horreur dans nos vies, puis ça arrive. Et comme tu dis, des fois, on part en vacances et tac-tac. Bon, bref, ça s'est pas fait et tout. Donc moi, de mon côté, je me projetais vraiment, quoi. J'imaginais...
C'est un peu comme pour les autres choses. Donc, je me projette, parce que si on le fait, c'est pour quelque chose, mais... Je me projette pas vraiment, en fait. Je m'imagine pas l'enfant être là. J'y vais étape par étape. Donc, du coup, non, je me projetais pas vraiment, mais...
Pour pas être déçu.
Pour pas être déçu. Mais la déception, si tu veux, tout à l'heure, tu disais, à chaque échec, est-ce qu'il y avait une prise en charge? Il n'y avait pas de prise en charge, mais... Enfin, tout ce qui me concerne personnellement, je le vivais comme un échec, mais ça me remuait pas, par exemple, quand on a des gens autour de nous, quoi, à peu près nos âges, et qui nous annonçaient qu'ils allaient avoir un enfant. On était à la fois, moi, enfin, personnellement, j'étais très heureux pour eux, mais quelque part, ça me faisait mal. Et je culpabilisais de me dire, merde, tu devrais être 100% content. Alors, c'était le cas. Mais oui, ça en renvoyait quand même. Et c'est dans ces moments-là, en fait, moi, que ça me faisait mal. C'était pas au moment de se dire, la fille va échouer ou c'est merde, nous, on n'y arrive pas, et alors que tout le monde autour y arrive. Ouais, là c'était compliqué. C'est là où du coup tu te projettes un peu, mais tu te projettes sur le fait que tu vas pas y arriver.
Ouais, c'est ça peut-être. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et d'autant plus qu'en plus, tous nos amis, ils étaient en plein dedans, même dans la famille, en fait. Ça a commencé avec ma cousine, qui était dans le même état. Mais alors après, la différence, c'est pour ça, si des femmes nous écoutent, il faut le faire le plus tôt possible si vous voulez vous lancer là-dedans. Parce que plus le temps passe, plus c'est compliqué. Là, toutes les personnes autour de moi pour qui ça a marché, elles avaient 10 ans de moins que moi. Et donc, c'est sûr qu'il y a un peu plus de chance. Après, on ne remet pas totalement en question. Heureusement que ça existe et c'est bien parce qu'il y a plein d'enfants qui arrivent comme ça. Seulement, voilà, on n'est pas forcément bien accompagnés. C'est Paris aussi. Et Paris, il y a trop de monde. Et voilà, parce que ceux qui l'ont fait peut-être en province, il y a peut-être un accompagnement un peu différent. On ne jette pas totalement la pierre sur tout. Hein. C'est quand même bien que ça existe. Mais voilà, c'est
notre expérience.
C'est notre expérience. Et on n'a pas forcément... Et c'était peut-être aussi le début. Là, je vois, à l'époque, la première médecin m'avait proposé de faire un examen qui n'était pas du tout homologué, qui était en expérimentation à l'époque. J'étais énervée. J'ai dit, mais j'avais envie de lui dire, je ne suis pas votre cobaye. Sauf que je vois qu'aujourd'hui, donc 6 ans après cet examen-là, maintenant il est fiable. Alors je dis mince, j'aurais peut-être dû lui faire confiance. Enfin, c'est tellement dur confier son corps à la science, en fait. Hein. C'est vraiment ça, hein, puisqu'ils ne savent pas, en fait. On est sur la vie, quoi. On crée la vie, en fait, artificiellement. Ça fait même flipper, en fait. Donc, bref, en tout cas, le fait de voir tous les autres avoir des enfants. Alors moi, c'est encore plus fort, c'est que mon frère a eu une petite fille. Il y a 8 mois, 9 mois, là, elle va avoir 9 mois. Et là, moi, ça m'a...
Alors que par la FIV.
Oui, par la FIV, d'ailleurs. Ils ont eu une fille avec une FIV. Et bien, ça m'a totalement dévastée. Mmh. Alors que j'aurais dû être hyper heureuse. Mais ça a été vraiment... J'ai eu du mal à m'en mettre. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à revoir une psy pour m'aider. Parce que je me suis dit, en fait, je n'ai pas fait mon travail de deuil, de pas avoir d'enfant, en tout cas, pas réussi à en avoir jusqu'à présent. Et pareil, je ne dis pas réussi, mais voilà, ce n'est pas ça. Il faut que j'arrête de dire ça. C'est juste que ça ne s'est pas fait. Et du coup, ça m'aide parce que du coup, elle me fait voir les choses différemment. Que oui, il faut que je déplace ce désir sur autre chose et que je vais peut-être avoir une relation avec cet enfant aussi différente. Et peut-être que je vais m'occuper d'enfants et, et on n'est pas obligé, comme tu dis,
de porter.
Voilà, de porter. On peut être parent d'autres façons et j'explore ça. À un moment donné, on avait pensé à l'adoption aussi.
Ouais, mais c'est la question que je voulais vous poser.
En fait, on n'a pas verbalisé et clairement acté qu'on n'aura pas d'enfants.
Oui, aussi.
On ne s'est jamais dit entre nous. Ouais. Alors, chacun, on fait notre cheminement. Je pense qu'on a notre
idée.
On a notre idée. Mais on est plus, on ne se le dit pas explicitement, mais dans ce qu'on se dit au quotidien, quand on voit nos amis qui ont des enfants, ou l'évolution de la société, ou voilà, on se dit, un enfant, c'est chaud quand même de faire un enfant.
Donc peut-être c'est pour se rassurer, tu vois. Il faut se donner plein de,
on en a
de,
conscience.
De pistes et se rassurer comme on peut, mais là, aujourd'hui, vous diriez quoi ? Vous diriez que Si on a l'occasion, on recommence PMA, FIV, ou est-ce que vous diriez plutôt on vit et si ça nous arrive, si ça arrive, si là, il ou elle arrive, bah, il sera le bienvenu quoi qu'il arrive, ou on se dit on ferme ce chapitre et on avance.
Tant qu'aucune porte n'est fermée, on les laisse ouvertes. C'est sûr que la PMA, c'est fini parce que moi, je veux pas que, voilà, au niveau de la santé, je veux pas que le corps, avec l'âge, est de plus en plus agressif. Donc, mais après, tant que physiquement, physiologiquement, c'est possible, j'ai toujours, moi, la porte possible qui s'ouvre sur le fait qu'on ait un enfant. Après, ça arrive ou ça n'arrive pas, tu vois.
Ouais, on n'a pas totalement fermé la porte, non. On n'a jamais trop parlé. Après, voilà, il faut être lucide aussi. Oui. 46 ans, il ne faut pas être égoïste quand on va l'amener à l'école. Ouais, je vois ça avec des gamins de 20 ans, c'est jour et la nuit. Enfin, y a des décalages générationnels, il ne faut pas non plus être trop égoïste non plus.
De plus en plus aujourd'hui,
voilà,
ça va très vite.
Et bon, d'essayer de faire en sorte de pouvoir les guider, les accompagner au moins jusqu'à ce qu'ils soient assez matures, même si on ne l'est jamais. Pour l'après, on a beaucoup parlé du deuil, etc.
Mais tu vois, l'adoption, pour répondre à ta question,
ouais.
Moi, c'est quelque chose qui m'aurait plu, mais je voulais, si c'était encore possible, enfin, c'est compliqué l'adoption, c'est pour ça qu'on ne s'élance pas. Moi, je voulais un enfant africain. Je voulais qu'il soit noir, en fait. C'est-à-dire, je pense que c'est beaucoup pour que ce soit clair pour tout le monde.
Ouais, comme
qu'il
n'y
a
si
pas de lien biologique,
c'est mon enfant,
tu vois. C'est mon enfant.
Mais arrêtez,
voilà,
vous ne
venez pas me demander quoi que ce soit.
Je l'ai adopté.
Voilà, c'est mon enfant, il l'a adopté, mais c'est mon enfant. Et voilà. Et donc
c'est un point commun, parce que moi aussi.
Parce qu'on voilà, on est tous les deux aussi.
Moi, je suis tombée amoureuse du Sénégal quand j'étais à 16 ans. C'est un des voyages que j'ai pu faire. Donc je suis amoureuse du pays, de la culture, de la danse, le sabar. Je m'étais dit si je peux pas avoir d'enfant, j'adopterai un petit Sénégalais. Ah, on peut pas au Sénégal, les ados sont enfermés. Mais pourquoi ? Parce que voilà, je veux partager ça avec lui, cette culture. Je suis tellement imprégnée aussi de la culture que je l'accompagnerai. Évidemment, ce sera notre enfant, mais un jour, il voudra certainement retrouver ses racines. Et on sera là, et je connais, il y a une vraie signification. Et quand on s'est rencontrés et qu'on a eu cet échange-là, on s'est dit, mais voilà, on aura cette possibilité-là.
Et est-ce que toi, comme Alex, si vous aviez adopté ou si vous adoptez, on ne sait pas, rien n'est figé dans la vie, tu veux que ça soit clair ? Cet enfant, c'est mon enfant, mais je ne l'ai pas porté.
Oui, mais oui, et puis voilà, c'est génial, je trouve. Parce qu'en fait, finalement, c'est aussi beau que de donner la vie, finalement. Et peut-être même plus beau, finalement, parce que c'est vraiment un don et c'est de l'amour pur et inconditionnel. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un choix. Parce que des fois, on est un enfant, on n'en veut pas.
Il y a des gens qui ont des enfants sans se poser de questions et qui ne les méritent pas.
Et puis nous aussi. Alors ça, c'est aussi cette injustice-là. Il n'y a pas de justice dans la vie. Mais des fois, on voit des gens qui ont des enfants. On se dit, mais pourquoi ?
Bon, ça ne veut pas dire qu'on serait des parents parfaits.
Oui,
mais
non, mais il n'y a pas de parents parfaits.
Le côté transmission, tout ça, moi, ça me manque.
Oui, c'est ça qui nous manque, en fait.
Il y a un truc qui nous...
Et avec les neveux et nièces ? On arrive à créer du lien ou c'est compliqué ?
La famille fait que c'est pas forcément simple. Enfin, faut aussi remettre dans le contexte de nos environnements familiaux finalement où tout était un peu compliqué. Donc tout s'explique finalement. On vient quand même de.
Ouais, moi ma famille, du côté de ma mère, j'avais plus personne. Et j'ai des cousins cousines du côté de mon père mais qui sont très loin, donc je vois pas leurs enfants, donc je les vois pas grandir, donc j'ai
pas
de lien avec eux. Et puis je me rends compte que les enfants en bas âge, voilà, je suis pas.
C'est pas ton kiff.
C'est pas mon délire.
Bah en fait, voilà, ceci voilà. explique cela. Oui, s'ils arrivent en bas âge. Voilà.
oui, c'est, oui.
Et toi, Emmanuel?
Ben non, non, moi, alors pour le coup, là, j'essaie de créer du lien avec ma nièce, mais voilà, mon frère habite à Bordeaux, et puis mes relations avec mon frère n'ont pas toujours été non plus au beau fixe. Donc, non, c'est compliqué, mais voilà, après, ouais, je pense que ça. Voilà, il faut que je trouve, moi, ma manière d'être parent, et je pense que. Et je suis à une phase de ma vie aussi où j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investie dans le boulot, je me réouvre aussi à de la création, de la créativité. Là, je me suis remise au chant, je me suis mise à la peinture, je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer. Et je vais essayer de transformer un petit peu mon désir d'enfant que je. Et je suis accompagnée aussi par ma psy, hein, qui m'ouvre des portes.
Qui t'ouvre des portes.
Voilà, pour créer des choses à côté, et peut-être un jour m'investir dans une association, m'occuper d'enfants. Et finalement, créer quelque chose que j'aurais choisi, que j'aurais pas subi, et surtout que j'aurais pas transmis de cochonneries à un enfant. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est que 50 fois, j'aurais pu faire des enfants dans ma vie. J'ai jamais pu, parce que je m'étais dit, je suis pas prête, je veux pas transmettre ça. Et j'ai cette conscience-là. Alors, c'est peut-être bête, hein, y en a qui ont pas ça. Mais voilà, maintenant, c'est ça, que ça se passe bien, et que voilà, on verra pour la suite.
Juste avant de passer à justement cette projection de la suite de ce qu'il est possible de faire ou pas, avec vos proches, du coup, comment ça se passe? Parce que du coup, quand on entame ce processus et que finalement ça devient clair que cet enfant n'arrive pas de façon naturelle, les amis, l'entourage, ben, on va parler plutôt des amis vu le contexte familial, mais qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous de plaisant ou peut-être moins plaisant, et comment vous réagissez face à ça? Ça veut dire, est-ce qu'on est OK avec le fait d'être en lien avec tous ces enfants-là qui gravitent autour de nous? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous nous racontez un peu?
En fait, on a la chance quand même d'avoir un entourage qui est respectueux, et ils savent, et on ne nous pose pas trop de questions.
Après, on a une vie un peu...
On a choisi, quoi. Ouais, on choisit les gens.
Mon entourage, c'est-à-dire que moi, mes potes, par exemple, on se voit rarement en couple, si tu veux. C'est comme quand on a 15 ans, quand on se voit ensemble. Donc, on n'évoque pas trop ces sujets-là. Après, les amis qu'on a, non, on n'en parle pas, en fait.
Ouais, on n'en parle pas.
Parce qu'on ne veut pas ou parce que c'est tabou?
Parce que ça se présente pas, ou non, on n'a pas de tabou.
Non, on n'a pas de tabou, on peut en parler.
Ça vient plutôt des autres.
Oui, c'est ça, justement. Ouais.
Non, mais quand ma cousine elle a eu sa fille, elle ne m'envoyait pas de photos, par exemple, au début. Alors que j'aurais bien aimé, à ce moment-là, j'avais beaucoup d'espoir, et voilà, donc ça s'est un peu fermé. Donc maintenant, la petite, elle a 5 ans, donc j'ai aucun lien avec.
Mais t'aurais aimé qu'elle t'envoie des photos, finalement.
Par exemple, à cette époque-là, oui. Après, là, plus récemment, mon frère qui a eu sa fille, ma mère m'a envoyé des photos. J'ai dit non, arrête, parce que ça me fait souffrir, arrête. Donc, du coup, elle me demande maintenant. Donc, il y a ça quand même. Donc, ma mère aussi, ça l'a fait souffrir, parce qu'elle s'imaginait qu'elle allait être grand-mère au mois des deux côtés. Bon, elle a déjà eu un enfant. Et du coup, je suis contente pour elle. Enfin, tu vois, dans mon côté sauveuse, je me dis, ah, c'est bien. C'est bon, moi, elle aura eu ça, elle est contente. Après, on a des amis qui ont un petit garçon, Stan, qui est mignon comme tout. Et là, pour le coup, on se voit, et c'est hyper fluide, on en parle, et ça devient un peu notre petit... On est les tontons, la tata. Ça se fait naturellement. Donc non, de ce côté-là, on a de la chance. Et peut-être aussi, par notre attitude, on nous en parle pas, on n'a pas de remarques déplacées... Même la famille. Bon, au début, quand on s'est rencontrés, c'était bon, alors vous allez vous y mettre et tout.
Ouais, ça c'est le vieux cliché, des relous.
Mais avec l'âge, on ne nous demande plus rien, quoi. Ils ont
Parce que souvent, quand on se présente, etc., qu'on dit je suis mariée, j'ai ou j'ai pas d'enfant, la question de j'ai pas d'enfant, oups, désolé, ou ah, je savais pas, ça vous le recevez ou pas?
Moi, ça, j'avoue que je le vis un peu. Enfin, je trouve que c'est injuste. C'est-à-dire que on le voit. Enfin, je vais dire un exemple débile, hein, mais si tu regardes Koh-Lanta, c'est toujours ceux qui ont des enfants qui passent en priorité. T'as l'impression que la vie de quelqu'un qui a pas d'enfant, elle vaut moins que la vie d'un parent.
C'est pareil.
Donc, voilà. Donc ça, moi, des fois, ça me dérange dans le style où on peut considérer qu'Emmanuel et moi, c'est comme si on avait une maladie, tu vois. Attirer de la pitié, non, c'est comme ça.
Comme ça, on est presque désolé pour vous.
Oui, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils l'ont choisi. Bon, nous, on aurait aimé en avoir un, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est de la merde, pardonne-moi l'expression, parce qu'on n'a pas d'enfants. Donc voilà, dans les films, quand t'entends « S'il vous plaît, je suis mère de famille, je suis père de famille », ça m'énerve parce que je me dis « Mais en quoi le fait que tu sois mère ou père fait que ta vie a plus de valeur ?» Alors, ok, si tu meurs, ton enfant va se retrouver, mais...
Mais
intrinsèquement, tu vois, on est tous à égalité.
Donc
ça, ouais, ça peut me vénère un peu des fois.
Et toi ?
Moi, c'est au travail surtout, où en fait, bah, tout le monde a des gosses et tout. Et bon, alors après, j'ai de la chance, j'ai deux, trois femmes qui n'en ont pas, donc c'est un peu... bon, et on voit enfin, les différences, du coup, moi, je suis plus disponible, voilà, je suis à fond dans mon travail, enfin, j'ai mis beaucoup d'énergie dans mon travail puisque j'ai le temps. Mais voilà, c'est quand les collègues commençaient à parler en disant est-ce que, voilà, est-ce que tu as des enfants ? Ben non. Et des fois, tu prends des postures quand tu réponds en disant ouais, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Bah oui. Voilà,
pour couper un peu.
Ouais,
le...
grave. Et bon, voilà. Ou alors, des fois, j'ai envie d'être. Des fois, ça m'énerve et j'ai envie d'être dans la provocation et de dire des horreurs. Ben non, il est mort ou un truc comme ça. C'est horrible, hein, ce que je dis.
Ouais, mais tu vois, c'est juste pour les calmer. La réaction de l'autre, en fait, en face. Et là, maintenant, tu me dis quoi ?
Ouais, ouais. Et alors, des fois, j'ai juste ça et c'est, j'avoue des fois j'ai envie quoi mais c'est horrible.
Tu devrais le faire au moins une fois pour
oui mais c'est ça, mais pourquoi, parce qu'en fait des fois ouais il y a ce côté à la fois ouais bah tu peux pas comprendre et tout et c'est là que j'ai envie de dire ouais bah et ça tu peux comprendre et bon alors grâce à Dieu je l'ai pas vécu et je pour ceux qui l'ont vécu c'est terrible mais voilà c'est juste que voilà foutez-nous la paix chacun sa vie et voilà et c'est vrai qu'il faut désacraliser ça voilà et puis je pense aussi alors malheureusement avec tout ce qu'on vit la pollution les perturbateurs endocriniens parce que nous on est quand même de cette génération là les quadras on nous a fait manger des trucs bizarres quand même hein, quand on était petit on prenait des antibiotiques moi j'ai pris la pilule pendant longtemps à l'époque c'était la fête au village on faisait ce qu'on voulait j'ai fait des traitements anti-acné ou acutane, enfin tout ça, qui m'ont déglingué, hein, faut se dire. Donc, au bout du compte, ça, plus le psy et tout, ben, y a quand même des explications, c'est pas juste la fatalité, quoi.
Merci à vous deux pour ça. Y a plein de choses qui me viennent en tête et très peu de temps qui nous reste. En tout cas, tous les deux, aujourd'hui, comme déjà avant, être parent n'est pas une fatalité. Et la vie ne se résume pas à la parentalité. On est d'abord homme, femme, être humain, frère et sœur, etc. Et ne pas avoir d'enfant n'est pas un crime, en fait, ou une maladie. Des fois, on l'a voulu et la vie ne nous en a pas permis. Des fois, on n'en veut pas, peu importe. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. La vie d'un parent n'a pas plus de valeur que la vie d'un semblable qui n'a pas d'enfant. En fait, la vie, ça reste la vie. Donc, merci pour ce témoignage et j'espère pour le coup, là, cette fois-ci, que ça va redresser les oreilles de certains auditeurs qui voient ça avec de la pitié, alors que non, on a un parcours, c'est difficile, mais n'aie pas pitié. Au contraire, n'aie pas pitié. Mmh. Enfin, j'aimerais juste savoir quelles sont pour vous les choses auxquelles vous pourriez penser pour justement transformer ce désir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête naturellement ? Tout à l'heure, tu disais peut-être une association qui s'occupe d'enfants, peut-être l'adoption. La difficulté, c'est que c'est très compliqué, mais peut-être on sait pas comment ça va évoluer dans les années à venir. Quelles sont vos petites portes, vos petits sas ?
Alors moi, il y a quand même une porte, et parce que pour tous les auditeurs qui sont des sauveurs comme nous, voilà. Moi, je me suis occupée des os toute ma vie, voilà, et je me suis peu occupée de moi. Donc là, et je me suis beaucoup inquiétée pour tout le monde en fait, et ça m'a créé des angoisses et tout. Alors qu'en fait, pourquoi bon, c'est mon schéma psychologique. Aujourd'hui, je me dis, c'est le moment de m'occuper de moi. Mais alors certes, c'est super d'avoir des enfants et tout, mais nous, à 11h le samedi, on est au lit, on a une vie, on a une liberté de malade en fait. On se rend compte, on fait ce qu'on veut quand on veut. Alors des fois, on n'en profite pas assez, on se met des coups de pied aux fesses pour se dire, putain, bah, si on est libre, quoi. On peut se barrer au bout du monde et tout, on a cette liberté, donc ça, c'est plutôt cool. Et l'autre chose, c'est voilà, une des portes, c'est aussi de vraiment s'occuper de soi, parce que voilà, on a eu un schéma de vie qui a fait qu'on s'est beaucoup occupé des autres, et que c'est peut-être aussi pour ça que la vie nous dit, bon, bah, maintenant, pense à toi. il se passera peut-être d'autres choses, tu rencontreras des enfants ou des gens, on ne sait jamais, tu peux, voilà, peut-être un enfant qui va nous
qui va arriver du ciel,
voilà.
Comme ça,
voilà. Et comme tu dis, les choses vont peut-être s'assouplir et un jour, bah voilà, on aura, voilà, donc moi c'est un peu mon...
Tu sais, on dit qu'on a tous un enfant intérieur, finalement, donc en fait, l'enfant, on le porte quoi qu'il arrive.
Oui.
Et du coup, par rapport à tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, Emmanuel, bah ouais, bah peut-être qu'il est temps de prendre soin de cet enfant intérieur pleinement.
C'est ça.
Et de vivre cette parentalité, mais auto-centrée sur toi et ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, ce que j'ai besoin, ce qui me fait du bien. Et du coup, de te dire qu'au moins, tu prends soin de ton enfant intérieur, déjà.
Dans
un premier temps.
Ouais. Et ça fait... Ouais. C'est la clé de tout. Hein. Si la l'enfant, il va bien, et tout va
c'est
bien
ça.
Aller derrière.
Et du
et
coup,
ça,
s'il
on
a été fragilisé...
Avant 46 ans.
Mais s'il a été fragilisé, tu
mais
vois,
oui.
T'as déjà un enfant dont tu dois t'occuper.
Ouais, c'est ça.
Et toi, Alex ?
Bah, un petit peu la même chose. Je dirais que l'explication aussi tient dans le fait qu'on s'est beaucoup occupé d'autres gens, qu'on a donné beaucoup d'énergie et de capital voilà, à nos proches, et qu'aujourd'hui, avec l'âge, le fait d'avoir surmonté tout ça, est-ce qu'on aurait encore l'énergie, tu vois, de s'inquiéter de nouveau pour quelqu'un et de s'investir, je ne sais pas. Donc le bon côté, c'est de se dire, bah oui, on va s'occuper de nous individuellement et de notre couple. Notre couple, c'est un peu notre enfant au final, c'est ce qui nous unit, donc c'est ça. Et puis... et d'aller un peu plus loin dans le fait de se faire plaisir individuellement, libérer aussi des contraintes familiales, la pression de...
Voilà, les croyances limitantes dont tu parlais aussi.
Exactement, de notre éducation. Mais je pense que beaucoup de gens de notre génération ont été élevés de la même manière. Et au bout d'un moment, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas nos parents, qu'on ne pense pas comme eux. Et que voilà, donc aujourd'hui, c'est... de se faire plaisir, de se fermer aucune porte,
de vivre,
au coup une conclusion définitive en fait, si ce n'est que voilà, essayer d'être heureux un maximum
et libre dans sa tête, libre voilà.
Ouais, clairement.
Ouais.
Merci parce que c'était tellement authentique, c'est passé tellement vite et on pourrait rester encore des heures et des heures tellement c'était agréable en tout cas de vous entendre témoigner. Comme quoi même des choses qui peuvent être difficiles dans nos parcours de vie, on peut les transformer lors d'un échange comme ça qui lui est agréable alors que ce qu'on dit des fois l'est un peu
moins. Parce qu'il y a des trucs sympas dans nos vies.
Ouais, quand même.
Mais c'est ça justement et justement c'est ce que j'allais souligner, c'est que le mot de la fin qui pour moi est le plus important, c'est faut vivre. Et du coup, retrouver du temps pour soi, faire un maximum de choses, parce que bordel, mais vous avez de la chance.
Oui.
Désolée, Imani, derrière. Mais c'est vrai. Ça veut dire que profiter à pleines dents de la vie, c'est vraiment ça. Pour les auditeurs qui nous écoutent, j'espère que vous avez passé un aussi agréable moment que nous. Je tiens vraiment à vous remercier tous les deux pour l'authenticité. En plus, vous, les auditeurs, ils vous voient pas, mais en fait, vous êtes tellement lumineux, tellement... et c'est ce que tu disais, on s'est attardé sur une partie de votre vie, alors que c'est bien plus que ça. C'est autre chose que ça. C'est pas une vie de deux personnes malheureuses. C'est vraiment un instant de la vie sur lequel on a mis l'accent, mais qui ne vous résume pas du tout. Merci.
Merci à toi de dire ça, parce que c'est vraiment la meilleure synthèse que tu aurais pu faire. C'est effectivement une partie de notre vie, mais
ça vous résume
pas. Qu'on voulait partager aujourd'hui, mais ça ne nous résume pas. Et merci à toi, en tout cas, pour ton accueil et ta bienveillance.
Ouais, et voilà, c'est génial. Vraiment, avec plaisir pour revenir.
Ouais, revenez individuellement
et tout. Ouais.
Merci encore à Mon Paris FM de nous donner l'occasion, justement, de porter vos voix. Merci aux auditeurs qui sont fidèles. N'hésitez pas à vous abonner. Et on est diffusé le vendredi soir à partir de 21h. Et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez, ciao.
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 Mon Paris FM.